Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre podcast « Les VSS, violences sexistes et sexuelles pendant les stages à l'UTC ». Ces podcasts sont une collaboration entre l'association Stop VSS, association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l'UTC, et les ERS, ou étudiants, étudiantes relais santé, qui s'assurent de la prévention des sujets touchant à la santé au sein de notre université. Chaque épisode présentera le récit d'un ou d'une étudiante ayant été victime ou témoin de violences sexistes ou sexuelles durant un stage réalisé dans le cadre de ses études. Ils et elles ont accepté de nous livrer anonymement leurs témoignages pour mettre en avant la réalité des VSS durant les stages, ce qui est extrêmement courageux de leur part. C'est pourquoi nous vous demandons la plus grande bienveillance envers chacun et chacune des témoins victimes. Les sujets abordés peuvent vous toucher et les actes racontés pourront être difficiles à entendre pour certains, certaines d'entre vous, auditeurs et auditrices. Donc, si l'écoute de ce podcast vous est trop difficile, n'hésitez pas à faire une pause ou stopper. À la fin de ce podcast et sur les réseaux sociaux de Stop VSS et des ERS, vous pourrez retrouver des ressources permettant de vous aider sur les sujets de violences sexistes et sexuelles. Bienvenue pour ce premier témoignage. Aujourd'hui, c'est une étudiante ayant été victime de VSS qui a accepté de nous livrer son récit. Merci à elle d'avoir accepté de partager son témoignage aujourd'hui avec nous. Donc, je suis Anna et je fais partie de l'association Stop VSS pour échanger sur le témoignage que nous allons entendre aujourd'hui. Je suis accompagnée donc de Daphné.
Je suis Daphné, bonjour, et je fais aussi partie de Stop VSS.
Et de l'étudiante qui va du coup se présenter.
Donc bonjour, je suis actuellement en génie informatique à mon second semestre et j'ai été victime de VSS durant mon stage TN5 lorsque j'étais en TC1.
Est-ce que d'abord tu pourrais nous parler un petit peu de ton stage et en premier dans quel domaine il a été réalisé ?
Donc j'ai effectué mon stage dans le bâtiment, plus précisément dans la réhabilitation d'habitat social. Et les missions, donc j'accompagnais les ouvriers sur le terrain et je suivais aussi l'ingénieur qui me montrait les différents corps de métier, les différentes tâches. Et j'ai aussi beaucoup suivi mon tuteur de stage.
Ça marche. Donc, quelle a été la durée de ton stage et quelle a été la durée de la VSS durant ce stage ?
Donc, mon stage, il a duré 4 semaines. C'est un TN5, stage ouvrier classique. Et il me semble, je ne me souviens pas exactement puisque c'était il y a 2 ans, mais la VSS a eu lieu durant la 3e semaine. Et tout a eu lieu le même jour, ou peut-être sur plusieurs jours. Je ne suis pas assez précise là-dessus. Mais ça a été que sur une semaine, et la 4e semaine, c'est passé tout à fait normalement.
Je pense qu'on développera un petit peu plus l'aspect VSS juste après.
Ouais, ok.
Pour continuer à parler un peu du stage.
Ouais.
Comment tu l'as trouvé ? Est-ce que c'était par la plateforme des stages de l'UTC, ou c'était toi toute seule
Alors c'est vraiment toute seule, j'avais une enseignante quand j'étais au lycée, enseignante de physique chimie, qui était super, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui m'a mise en contact avec un directeur général dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait effectivement stage. Et tout de suite on m'a proposé une offre de stage assez rapidement, et c'est comme ça que je l'ai trouvée. Donc c'est peut-être plus par du bouche à oreille, parce qu'elle avait un contact dans l'entreprise en question.
Ça marche. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de l'entreprise ? Donc, est-ce qu'il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ? Est-ce que c'était une grande, une petite entreprise ? Est-ce que tu étais du coup en usine, sur une ligne de production, ou plutôt dans des grands chantiers ?
Alors, moi, j'étais donc dans un contexte majoritairement, voire uniquement masculin. Mmh. À partir de la deuxième, troisième semaine, une autre étudiante de l'UTC arrivée pour son TN10... est entrée dans cet univers-là avec moi. Et là, on était 2 filles, mais c'était un univers quasiment 100% masculin. Et sinon, j'étais pas sur une ligne de production, j'étais réellement sur le chantier, et on effectuait de la restauration d'un bâtiment ancien qui appartenait à une école militaire, qui avait été revendu à la ville. Et la ville souhaitait en faire des bâtiments sociaux, mais aussi des logements un peu au standing. et enfin un musée et des commerces pour avoir une différence sur, enfin, beaucoup de fonctionnalités dans les mêmes bâtiments.
Ça marche. Oui, donc tu étais vraiment sur le terrain.
Oui, réellement, j'étais avec les ouvriers toute la journée, du matin jusqu'au soir.
Ok.
Très rarement avec l'ingénieur, mais l'ingénieur passait beaucoup de temps à m'expliquer les différents corps de métier et me faire visiter les bâtiments.
Et ça concernait, enfin, t'avais des interactions avec beaucoup de personnes différentes ou justement c'était juste quelques ouvriers avec qui t'étais tout le temps
Alors, la grosse entreprise avait, je crois, mis à disposition une dizaine d'ouvriers. Une dizaine d'ouvriers étaient présents sur place. Donc j'avais beaucoup d'interactions avec tous ces ouvriers-là. Beaucoup plus d'interactions avec les ouvriers haut placés. Parce que ils m'ont tout de suite, dès le début, comme étant la seule fille, ils m'ont mis dans le bâtiment où il y avait tous les ouvriers, plutôt les maîtres d'œuvre.
Les plus qualifiés.
Oui, les plus qualifiés, ceux qui travaillent dans les bureaux d'études, les ingénieurs, ceux qui sont moins sur le terrain. Ils m'ont mis là-bas et ils m'avaient créé aussi un vestiaire spécial pour moi, pour que je puisse me changer tous les matins. Donc ils avaient fait très attention à moi et ils faisaient en sorte que je sois vraiment... dans les bureaux avec eux et que mon tuteur puisse me suivre puisque son bureau était dans les bureaux où j'étais.
Ok. Est-ce que y avait eu des préventions contre les VSS de la part de l'UTC avant le stage ou alors des préventions de l'entreprise ?
Non, pas réellement. À cette époque, Stop VSS n'existait pas. On parlait très peu de ça. Moi, je sortais du lycée, donc. C'est un sujet sur lequel j'avais pas été encore réellement confrontée, auquel j'avais pas encore été réellement confrontée. Donc c'était tout nouveau un peu pour moi et j'ai eu du mal à m'en rendre compte, mais je vous en parlerai après. Mais l'UTC n'avait pas encore fait de prévention. C'était vraiment différent par rapport à aujourd'hui. Et l'entreprise en question, non, aucune prévention. Ils ont juste fait attention à moi, dans le sens où ils me disaient... où ils m'ont créé un propre vestiaire, une zone pour me changer. J'étais vraiment suivie par mon tuteur qui me prenait presque par la main pour que tout se passe bien réellement.
Ok, tu viens de nous parler un peu de ton encadrement. Si tu as autre chose à rajouter sur ton stage, une autre information auquel tu penses ou quoi. Et si tu penses à rien, on peut enchaîner sur le sujet des VSS, si ça va.
Oui, ça va, et non, je pense à rien. Je pense qu'on m'a tout dit, je me souvenais pas de l'histoire du vestiaire jusqu'à ce que j'en parle.
En vrai, c'est pas mal que du coup, ils aient réussi... ils aient essayé quand même au début de mettre en place un contexte un peu safe, quoi.
Ah oui, vraiment, dès le début, ils m'ont dit « On te met dans ce local-là, tu as ton propre vestiaire, tu te changes, c'est ton endroit, et personne n'y rentre. Tout le monde est au courant, personne n'y rentre, il n'y a pas de souci. » Donc vraiment, là-dessus, ils ont vraiment fait les choses bien et c'est arrivé un peu contre leur volonté. Et à la suite, quand j'ai finalement parlé, ils ont très bien réagi. Okay. Très, très bien réagi.
Peut-être que du coup, on peut poser des petites questions par rapport à ça. Donc du coup, tu as été victime de VSS, c'est ce qu'on a dit.
Oui.
Alors, où, comment ça s'est passé ? Qui en était l'auteur ou l'autrice ? Bon, l'auteur, du coup, dans ce cas-là, vu qu'il n'y avait que des hommes autour de toi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui est arrivé ?
Oui. Donc, le contexte est le suivant. Durant ma première semaine, je changeais beaucoup d'ouvriers accompagnants. Et vers la fin de la semaine, il y a un ouvrier qui avait différentes tâches, qui voyait un peu différentes parties du bâtiment. Et ils m'ont assigné à cet ouvrier, et donc tous les jours, pendant 3 semaines, j'ai travaillé principalement avec lui. Et donc cet ouvrier-là, je m'entendais très bien avec lui. On discutait énormément, c'était très intéressant la plupart du temps. Et il y a cette fois où on était dans un parking, donc en souterrain, le parking avait été refait à neuf, et on devait travailler donc, sur ce qui s'appelle des cunettes. C'est des petits caniveaux qui permettent l'écoulement de l'eau de manière douce et pour éviter trop de bruit dans les parkings, puisque les parkings, c'est vraiment assourdissant. Et il y a cette phase où on devait faire couler un peu de ciment et après, on devait mouiller la surface, remettre un peu de poudre de ciment et lisser la surface pour que l'eau s'écoule normalement. Et ça faisait déjà plusieurs mètres qu'on faisait ça. Ça faisait au moins 100 mètres facile. Donc on l'avait fait pendant quasiment 3 semaines. Du coup, non, plutôt 2 semaines à ce moment-là. Et il fallait donc mouiller la surface. Il me pose la question, est-ce que tu veux mouiller ou je mouille? Et je lui dis non, je vais mouiller parce que tu mouilles pas assez. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, tu penses à quoi, petite cochonne? D'office, j'ai réagi, je lui ai dit que non, le petit cochon, c'était trop. Et on n'en a pas reparlé. Et je pense que le deuxième moment où ça a eu lieu, je ne sais pas ce qui lui a fait penser ça, qu'il avait le droit de faire ça, mais on était au réfectoire, donc j'étais dans le réfectoire avec donc un autre maître d'œuvre. Qui avait un lien proche avec mon tuteur, donc dans le réfectoire où il y avait tous les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les ingénieurs, etc. Et les ouvriers, qui avaient un bâtiment à part, avaient tendance à venir pour se faire un café, vraiment tout bête. Et il me semble que c'est dans ce réfectoire-là où je me suis pris une fessée. Et donc il y avait plusieurs ouvriers. C'est vrai que il n'y a pas eu de réaction et que je me souviens qu'il y avait un des maîtres d'œuvre qui, je pense, a plus baissé les yeux que réagi. Et je me souviens plus si c'était une ou deux, mais en tout cas, il y en a une et il me semble que c'était vraiment proche dans cet espace de réfectoire où il y avait du monde à l'intérieur. Et au début, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, mais j'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Jusqu'à la fin de mon stage. Et c'est seulement avec le retour de certains UTC1, des amis, que j'ai compris, j'ai pris conscience de ce qui m'est arrivé, que ça ne devait jamais arriver.
Et l'homme, du coup, qui t'a mis la fessée, c'était l'ouvrier dont tu nous parlais en premier lieu ?
L'ouvrier avec qui j'ai travaillé pendant 3 semaines.
Ok.
Sur mon stage.
Et parce qu'après, du coup, t'as continué à travailler avec lui
ouais.
Le reste du temps ? Et est-ce qu'à un moment, pas forcément pour ça, parce que comme tu dis, tu t'en étais pas rendu compte, mais pour la remarque qu'il t'a faite, t'as décidé d'en parler à quelqu'un? Ou vraiment pas sur le coup? Puisque toi, t'as eu le réflexe de réagir quand même.
Je me souviens pas. Je me souviens pas si j'en ai parlé à quelqu'un. Et si j'en ai parlé, j'en aurais parlé à une personne. Mais je peux pas dire. Et je sais juste que j'en ai pas parlé dans l'entreprise, j'en ai pas parlé dans mon cercle familial. Et si j'en ai parlé, ce serait à un ami, mais je suis même pas certaine.
Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment pas su dans le contexte dans lequel tu travaillais, quoi?
Non, j'ai rien dit.
Et est-ce que tu sais si au départ, il y avait, enfin quand t'es arrivée sur place, il y avait un... Enfin, ils ont essayé de te mettre à l'aise avec ton vestiaire, etc. Mais ouais. Est-ce qu'il y avait une ambiance qui était un peu délétère autour de ces sujets-là, ou
de blagues vraiment, sexistes, ouais. Par exemple,
ou c'est vraiment venu de nulle part, sans aucune de quoi s'attendre, quoi.
Donc c'est vrai que dans un premier temps, quand je suis arrivée dans l'entreprise, personne se connaissait. Enfin, moi, je ne connaissais personne, et tout de suite, ils ont été très respectueux. Et il n'y a pas eu de blagues sexistes, de quoi que ce soit qui ont pu me mettre la puce à l'oreille. Mais c'est vrai qu'avec cet ouvrier-là, à force de travailler avec lui, il y a un moment où c'est vrai que je me suis dit qu'il prenait peut-être un peu trop ses aises. Et que c'était pas drôle, en fait. Pas drôle.
Et du coup, quand vous travailliez tous les deux, il n'y avait personne autour de vous ?
Non.
Vu que vous étiez dans un parking...
Parking en souterrain, on était que tous les deux. Et il y avait rarement d'autres ouvriers qui descendaient.
Donc t'étais très vulnérable, en fait.
Absolument, oui. Mais je viens de le voir en parlant dans ce podcast.
Je sais pas si on a précisé, peut-être la question vaut la peine d'être posée. Est-ce que t'étais mineure ou majeure au moment des faits, vu que c'était ta première année
J'étais majeure.
À l'UTC, ok. Enfin, ça désaggrave pas le problème.
Non, bien sûr.
Mais en termes juridiques, par exemple, ça a pas du tout... Enfin, ça peut avoir de grosses différences, quoi.
Non, j'étais majeure, oui.
Ok.
Voilà.
Est-ce que... Donc, tu nous as dit qu'il n'y a aucune action qui a été engagée au sein de l'entreprise. que tu as continué à travailler avec lui du coup pendant le reste du temps. Mm-hmm. Est-ce que dans ton rapport, dans ta présentation, là tu as décidé d'en parler, comment tu t'es rendu compte que toutes ces choses-là, ça avait été un problème?
Bah, en fait, j'aimerais bien juste revenir sur... Il n'y a pas eu aucune action, puisque okay. après je suis intervenue. Mais bien plus tard.
Tu vas nous raconter du coup comment t'es intervenu.
Okay. C'est ça. Donc à la fin du stage, il y a eu le retour de la plupart des étudiants à Compiègne. Et j'avais des amis avec qui on s'est retrouvés un soir. Et on discutait de nos stages respectifs. Et c'est là où j'ai fait part de mon histoire. C'est la première fois sûrement que je la racontais. Et ils m'ont regardé et m'ont dit « Comment est-ce que tu te sens ?» C'est grave ce qui vient de t'arriver, c'est pas normal. Est-ce que tu veux réagir? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu te sens? Et en fait, toutes ces questions-là et la manière dont ils m'ont regardé avec des yeux de panique, presque, ça m'a fait me rendre compte que c'était pas du tout normal et que je sais pas pourquoi j'avais enterré ça, mais personne ne fait ça. Et c'est pas normal. Donc c'est là où le contexte de majorité peut intervenir. J'étais encore très jeune, tout juste majeure. Et j'ai senti qu'il fallait que j'en parle à ma famille pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire. Sachant que je voulais pas forcément... En fait, je savais exactement ce que je voulais faire. Je savais que ce que je voulais, c'était protéger les suivantes. S'il y avait d'autres étudiantes qui étaient amenées à travailler avec cet ouvrier, je voulais pas qu'elles travaillent avec lui. Je voulais vraiment qu'il soit écarté de toutes ces petites étudiantes comme moi qui auraient été confrontées à ça. Et c'est là où, avec ma famille, il y a eu une rupture. Ça s'est mal passé. Ils ont mal réagi sur la communication. On s'est très mal compris. Je dis pas que ça arrive à tout le monde. Je dis juste que moi, ma famille, ça a été un gros point noir dans cette histoire. C'est ce qui m'a fait le plus de mal, je pense. Et...
Parce qu'ils t'ont cru quand tu leur as dit...
Ils m'ont cru, mais j'avais l'impression qu'ils endiguaient les faits. Qu'ils les étouffaient.
Qu'il les minimisait et qu'il les faisait passer pour des actes un peu anodins.
J'avais du mal à exprimer ce qui m'était arrivé. Mmh. Et il me disait, mais attends, tu peux pas le dire comme ça, parce que c'est pas réellement, c'est pas les faits. Et en fait, c'était pas ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Et qu'ils étaient réellement pragmatiques dans une situation où j'étais sensible.
Ouais, t'avais besoin juste de réconfort et de quelqu'un pour te dire que c'était pas de ta faute, quoi.
Oui, et c'est, je crois pas que c'est arrivé, c'est des paroles qui sont arrivées. Et je crois que ça a été aussi compliqué parce que on m'a dit un « c'est trop tard », mais ça ressemblait plus à un reproche qu'à quelque chose de « c'est trop tard ».
Ouais, comme si ça avait été à toi de te rendre compte qu'il fallait réagir sur le coup.
Mmh. Exactement.
Et t'en as pas été capable, donc tant pis pour toi en gros, quoi.
Ouais,
enfin, sache que c'est pas le cas. Hein.
Non. Non. Et donc j'ai eu une première discussion avec ma famille. Ça s'est mal passé. J'étais entourée, j'étais avec un ami à ce moment-là. Donc, mon ami m'a beaucoup aidée. Et une semaine plus tard, j'ai décidé d'aller rencontrer mon tuteur, qui était quelqu'un en qui j'avais confiance et qui avait toujours été impeccable de A à Z et qui m'avait suivie, qui m'avait vraiment tendu la main et qui avait été extrêmement bienveillant avec moi. Et sur le chemin... J'ai eu de nouveau une conversation avec ma famille qui s'est très mal passée. Et j'ai décidé d'éteindre mon téléphone tout simplement. Et de ne pas les écouter et de faire comme moi je le sentais. Parce que malgré tout j'étais majeure et j'avais le droit d'agir comme je voulais. Et je suis arrivée sur mon lieu de stage. Donc j'ai recroisé quelques ouvriers, je ne l'ai pas recroisé lui en question. Et j'ai demandé à voir mon tuteur. Et on m'a dit qu'il était là. Et je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler d'un truc... que c'était sérieux et privé. Il m'a dit, il n'y a aucun souci, on est passé dans son bureau. Et là, je lui ai raconté les faits, tels qu'ils se sont passés. Et il n'avait pas du tout le même âge que moi. Il était... Je pense qu'il avait quasiment l'âge de mes grands-parents. Donc c'était 60-70 ans. Et pourtant, vraiment, c'est la personne qui a le mieux réagi dans cette histoire. Il m'a regardé et il m'a dit, d'accord, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et je lui ai dit que si j'étais venue aujourd'hui, c'est pour pas que ça se reproduise, que j'ai pas forcément envie que ça remonte, que mon objectif c'est que lui soit sanctionné, mais parce que, enfin, pas réellement sanctionné, dans le sens où je voulais juste qu'il ait plus jamais d'étudiante avec lui, qu'il l'accompagne. Et il m'a dit d'accord, et il me dit t'es sûre que tu veux pas que ça remonte? Je lui ai dit non, parce que j'ai pensé à ce moment-là, j'étais empathique envers cet homme, puisqu'il partait dans 3 ans, donc je pense qu'il doit lui rester 1 an aujourd'hui dans le travaux public, enfin dans les travaux dans le bâtiment.
Parce qu'il était proche de la retraite, c'est ça ?
Ouais, très proche de la retraite. Et je crois qu'il il partait vraiment dans 3 ans. Donc je me suis dit que, enfin, il pouvait rester jusqu'au bout, mais plus jamais avec des jeunes filles comme moi. Et du coup, j'ai demandé à mon maître de stage de ne pas faire remonter, parce que je savais qu'il partirait. Mais par contre, je lui ai demandé de lui en parler. Et c'est là où il a fait un geste qui était extrêmement beau, c'est-à-dire qu'il a écrit sur un bout de papier ce qu'il devait faire. Il m'a dit, voilà, il a déchiré le bout de papier, il a mis ça dans sa mallette, il m'a dit, ça sera parlé ce soir, j'en parlerai avec lui. Et je savais qu'il le ferait, je ne lui ai jamais demandé, je ne suis jamais revenue, je n'ai jamais repris contact avec eux, mais je sais qu'il l'a fait, j'en suis certaine. Et c'est vrai qu'il a été d'une grande aide, puisqu'il m'a regardée et il m'a dit, écoute, c'est dommage que tu m'en parles que maintenant, après c'est pas grave, mais sache que si tu m'en avais parlé immédiatement après les faits, il aurait eu une cinglante, enfin il se serait fait remonter les bretelles, et toi t'aurais changé d'ouvrier, t'aurais plus jamais travaillé avec lui. Et c'est là où ça m'a beaucoup apaisée, puisqu'il a vraiment, vraiment dit les bonnes choses. Et c'est ce que j'avais besoin d'entendre, et c'est la personne vraiment qui m'a le plus aidée dans cette histoire. Et après j'ai informé ma famille que j'avais parlé avec mon tuteur, et en fait on n'a plus jamais parlé, c'était une histoire que moi-même j'ai fini par oublier, presque.
Jusqu'à du coup très récemment en fait.
Exactement. Okay, ça marche. Jusqu'à ce que je vois votre post sur Facebook,
ouais,
concernant les témoignages de VSS en entreprise.
Simplement, je voudrais revenir sur le fait que t'es pas réagi sur le coup. En fait, c'est difficile de réagir sur le coup si on sait pas ce que c'est qu'une VSS et si on peut pas mettre les mots sur ce qu'on a subi aussi, si on sait pas la caractériser. Par exemple, la main aux fesses, c'est une agression sexuelle.
Ouais.
Et c'est très grave, c'est puni par la loi. Et simplement, c'est effectivement difficile de réagir et même de mettre les mots quand on en parle aux autres, parce qu'on peut juste relater les faits sans prendre forcément compte de leur gravité, quoi.
Ouais, c'est ce qui m'est arrivé réellement. C'est que je savais que c'était pas normal, mais je me suis pas rendu compte à quel point c'était pas normal et grave.
Mmh.
Et c'est pour ça aussi que quand j'ai vu votre post, je voulais intervenir pour nouvelles personnes qui rentrent à l'UTC, parce que c'est hyper important. Moi, j'étais trop innocente à ce moment-là et j'aurais tellement dû réagir plus tôt, ça m'aurait fait beaucoup plus de bien et j'aurais peut-être réagi différemment si j'avais été plus consciente de ce que c'était. Mais c'est pour ça que quand j'ai vu votre post, je me suis dit qu'il fallait que je témoigne, parce que ma situation correspondait tout à fait aux nouvelles entrantes à l'UTC, ou aux nouveaux entrants d'ailleurs, tous ceux qui peuvent être victimes ou témoins. Je trouvais que c'était très important d'en parler pour qu'eux se rendent compte que réellement c'est grave, ça existe et qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus et que l'entreprise est capable de prendre des actions et que finalement l'entreprise peut prendre les meilleures actions possibles et inimaginables.
C'est très courageux de ta part du coup.
Merci.
Est-ce que du coup pour l'UTC, t'en as parlé ou c'est resté... avec ton tuteur
c'est avec ton tuteur,
ouais. Non, j'en ai pas parlé avec l'UTC, j'ai jamais pensé à en parler avec l'UTC. Je voulais que ça reste dans ce monde d'entreprise et je croyais que c'était l'endroit où il fallait que j'en parle, mais c'est vrai que j'ai pas pensé, ça m'est pas venu à l'idée que mon école aurait pu me soutenir ou être là ou m'écouter.
Donc même dans ton rapport ou quoi, t'as rien dit du tout sur le sujet ?
Rien du tout. Ça avait été aussi sujet de discussion avec ma famille. Mais c'est vrai que non, rien du tout, j'ai rien dit. Mais c'est vrai que j'avais un ami qui m'avait expliqué que lui avait été témoin. Et il en avait parlé dans son rapport.
Mm-hmm.
Que ça plaisait ou pas, qu'il avait envoyé une version à l'entreprise. Et qu'il avait fini, il avait parlé de ça. C'était important pour lui.
Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose que t'aurais fait, tu penses ? Enfin, c'est toujours un grand mot de dire il faut en parler, etc. Mais si tu devais conseiller quelqu'un à qui ça arrive maintenant, ouais, de façon récente, Est-ce que tu leur dirais d'en parler dans leur rapport, dans leur présentation, etc.
Ou alors tuteur, d'ailleurs.
Ouais, carrément. Ou tu penses que c'est complètement inutile et que t'as pas l'impression qu'il y ait forcément les bonnes actions qui sont mises en place pour être acceptée, avoir ta parole qui est acceptée, etc.
Alors je pense qu'aujourd'hui c'est un contexte vraiment différent par rapport à quand moi je suis rentrée à l'UTC. Quand je suis rentrée, c'était post-Covid. Enfin, à l'époque, on n'avait pas l'association Stop VSS, on n'avait pas toute cette cellule d'écoute, elle n'était pas encore mise en place. C'était pas quelque chose dont on parlait régulièrement, qui était présent à chaque événement. Et c'est vrai que là, on est dans un contexte réellement différent, donc je pense que je dirais, écoute, si quelqu'un est victime de ça, fais comme tu le sens, mais sache que tu seras écouté partout. Et que ce soit à l'UTC ou dans ton entreprise, n'aie pas peur d'en parler. Et même avec ta famille, n'aie pas peur d'en parler, parce que c'est quelque chose dont il faut parler.
Et surtout, il ne faut pas que la honte soit du côté de la victime, en fait.
Ouais. Ce
n'est pas à toi d'avoir honte, et ce n'est pas toi qui dois assumer le poids d'une responsabilité ou d'une charge mentale, en fait. Enfin, dans l'histoire, ce n'était vraiment pas toi la coupable, et tu n'as rien à te reprocher, quoi.
Non, ça, je le savais.
Ouais.
Ça, je le savais, mais le seul truc qui m'a fait le plus mal, c'est le « c'est trop tard », c'était plutôt qu'il fallait que t'en parles. Mais alors que non. Je pouvais en parler même 5 semaines après.
Même 5 ans après, c'était pas grave.
Vraiment, ça change rien. Le plus important, c'est qu'il fallait que j'en parle et j'aurais pu reprendre contact avec n'importe qui et leur en parler. Mais c'est vrai que dans mon entreprise, ils ont été très à l'écoute. Enfin, en tout cas, mon tuteur a été très à l'écoute. Et puis je pense que si j'avais pas eu accès à mon tuteur comme ça, il y aurait eu d'autres personnes dans l'entreprise qui m'auraient écouté et auraient pris le temps.
Est-ce que... alors, je pense pas vu ce que t'as dit, mais t'as décidé de voir quelqu'un, que ce soit un médecin, une médecin, une psychologue, la cellule de médecine ici à l'UTC, ou c'est quelque chose que t'as complètement intériorisé et ça vient de ressurgir à cause de nous?
Non, j'en ai pas parlé. J'ai pas cherché à me faire suivre. Je ne ressentais pas le besoin d'aller voir une psychologue, un médecin ou de me faire écouter. Je trouvais que ça m'avait plus blessé le fait d'en parler à ce moment-là que les faits. Et donc, j'ai intériorisé beaucoup l'événement. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'en parlais librement avec mes amis. Et ça, je les remercie tous. Mais avec ma famille, c'est un point de rupture aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal à leur parler de ce qui se passe. Si dans des cas où de VSS, j'ai du mal à leur en parler.
J'ai l'impression que on a fait un grand tour. Tu nous as raconté plein de choses. Merci beaucoup.
Et merci beaucoup.
Oui. Est-ce que tu veux encore insister, on en a beaucoup parlé, mais sur pourquoi c'est encore vraiment important pour toi de faire ce que tu fais là maintenant?
Ouais, je pense qu'au moins le rappeler, parce que je veux pas que le podcast soit pris de la mauvaise des manières. C'est que moi, j'ai une expérience qui a été particulière, qui est due aussi à mon entourage, aux gens qui m'entouraient à ce moment-là. Mais je veux que personne se dise « Ah, elle l'a vécu comme ça, donc ça veut dire que je ne peux pas en parler à ma famille. » Non, je ne veux pas du tout que les gens pensent ça. Je veux juste que les gens pensent que quand tu es nouveau ou nouvel arrivant, le monde d'entreprise, ce n'est pas un monde de bisounours. Malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui des cas de VSS. C'est dangereux. C'est des choses qui affectent énormément de gens, qui peuvent détruire des vies. Mais le plus important, c'est que si tu sens que ça te pèse énormément, parle-en. Et que aujourd'hui, on peut réellement parler, que ce soit au sein de l'UTC, au sein des associations, au sein de Stop VSS, de la cellule d'écoute. Il y a énormément d'endroits où on peut être écouté et suivi. Si on a besoin d'un médecin, si on a besoin d'un ou d'une psychologue, si on a besoin de tout ce corps d'écoute, on l'aura. Et puis, si c'est la famille, parce que c'est la famille dont on se sent le plus proche, la famille écoutera. Si c'est la sœur, le frère, si c'est les grands-parents, je ne sais pas, si c'est le tuteur. Mais l'entreprise aussi peut intervenir. Et que réellement, tout le monde peut écouter et tout le monde est sensibilisé à ça aujourd'hui. Et donc, n'ayez pas peur d'en parler. Et surtout, le plus important, c'était pour moi que les gens prennent conscience que réellement ça arrive. Mais ça arrive à tout le monde. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai.
Merci. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, si ça te va. Oui. Sauf si tu as quelque chose encore à rajouter. N'importe quoi. Ce que tu veux.
Merci Stop VSS pour le travail que vous faites.
Et les ERS
et
aussi.
Et les ERS.
Faut pas les oublier.
Ils sont avec nous aussi pour ce podcast.
Oui. Ouais.
Ben merci surtout à toi, hein, parce que sans vos témoignages précieux, il n'y aurait pas de podcast. Et sans ces témoins courageux, on n'aurait pas de, on n'aurait pas de matière, en fait.
Ouais.
C'est grâce à vous que, qu'on peut aussi continuer à se battre et à lutter au sein de l'UTC.
Ouais. Mais c'est aussi grâce à vous que vous nous ouvrez des portes. Et ces portes-là, on les prend pas, mais on est libre de les prendre. Et c'est vrai que rien qu'ouvrir ces portes, ça fait un effet sur chaque personne.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce témoignage. Et merci à la victime d'avoir accepté de nous raconter son histoire aujourd'hui. Nous la croyons et nous tenons à rappeler à toutes les victimes de VSS qu'elles ne sont pas coupables et que la loi est de leur côté.
Nous vous rappelons que des dispositifs d'écoute existent à l'UTC. Vous pouvez envoyer un mail à la cellule relais écoute à cellule.vss@utc.fr ou bien prendre contact avec la psychologue de l'UTC, catherine.carpentier@utc.fr ou encore avec le service de la médecine préventive de l'UTC, médecine-preventive@utc.fr. Ces démarches restent confidentielles et n'engagent à rien.
Un numéro d'écoute externe à l'UTC est également disponible. Vous pouvez appeler le 3919, qui est anonyme et gratuit. Des dispositifs juridiques sont également mis à disposition. Si vous avez été témoin ou victime d'une VSS, vous pouvez poser une main courante ou bien porter plainte afin de poursuivre votre agresseur, agresseuse en justice. En cas de VSS durant un stage, il faut prendre contact avec son ou sa suiveur de stage, le ou la coordinatrice ou le service des stages. Des procédures en cas de VSS dans les stages sont actuellement en place et en cours de développement à l'UTC. Elles sont mises en place au cas par cas, d'où l'importance de contacter ses responsables. Nous espérons que ces témoignages participeront à la mise en place rapidement de mesures par l'administration. Si vous avez un doute ou souhaitez des informations supplémentaires, contactez Stop VSS, les ERS ou le BDE par mail, où vous pouvez vous rendre sur leurs réseaux sociaux, sur lesquels vous retrouverez des posts complémentaires à ce podcast concernant les mesures d'aide en place à l'UTC. Encore une fois, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Votre écoute permet déjà de rendre la voix des victimes et des témoins plus forte.